Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Je suis avec Julien aujourd'hui. Ça va Julien ?
Salut Nico, ça va et toi ? Salut tout le monde.
Je suis avec Julien aujourd'hui parce que on va parler de Jean-Michel.
De notre race à tous.
Exactement, c'est ce que les hommages pleuvent depuis lundi. Jean-Michel Aulas, qui n'est pas mort, mais qui n'est plus président de l'Olympique Lyonnais. Ça fait un petit quelque chose quand même.
Ça fait un petit choc, il faut le dire.
Et il restera pas trop loin, donc il n'est plus président.
On ne sait pas parce qu'on l'a pas entendu depuis. Il pleure probablement dans sa
chambre. Le temps de digérer un peu l'information. 36 années quand même.
1987, il reprend Lyon en Ligue 2, on va pas refaire tout le chemin parcouru.
Ouais, on a sélectionné du coup quelques petites histoires sympathiques. On voulait rendre hommage à Jean-Michel Mauvaisefoy.
Voilà, parce qu'avant tout, Jean-Michel, c'est ça. Qu'est-ce qui va rester ? Alors, quand on n'est pas supporter de l'OL de loin, il va rester une forme d'admiration pour un président qui était capable quand même de défendre son club.
Même quand c'était vraiment pas une bonne idée.
Il y en a peu comme lui, et comme vous nous connaissez, on en aime un peu rigoler ici.
On va pas s'attarder sur les polémiques arbitrales, parce que c'est un peu facile, déjà, et il y en a trop.
C'est trop facile, il y en a trop, et quelque part, sur les polémiques arbitrales, c'est peut-être là où il était le plus commun. Il a fait comme tous les autres présidents, les jours où ça allait pas, un petit tweet,
un pénalty scandaleux par-ci, un arbitre.
Mais j'ai envie de dire, il distingue moins que la concurrence. D'autant qu'il était, je me réfère juste pour passer sur ce thème-là, je sais pas si vous avez vu le dernier docu Canal avec Tony Chaperon qui redécrypte certains grands matchs avec des faits d'arbitrage. Donc, là, c'était le PSV Eindhoven, on va pas revenir dessus. Mais à la fin, il y a une bonne anecdote qui m'a paru intéressante, c'est quand Tony Chaperon dit, vous avez une réputation de. Mais moi, j'ai comme donné un exemple. Une fois, j'ai arbitré un derby que vous avez perdu et vous arrivez dans le vestiaire et là, je pense que je vais me faire en guirlandais. Et là, vous me dites non, moi, j'ai rien à dire, monsieur Chaperon, arbitrage nickel, c'est juste Lyon qui a été nul. On a été mauvais, rien à dire, vous avez fait un bon match. Voilà. Donc Jean-Michel est aussi capable d'une forme de lucidité.
Oui. Mais c'est ce que dit. Nous, on a juste interrogé Bruno Darien, toi, l'ancien arbitre, qui disait dans le fond, on avait une bonne relation avec Jean-Michel Aulas. On savait très bien ce qu'il en était. Parfois, mais dans le fond, ça allait. Donc, on va faire ça par ordre chronologique.
On a sélectionné quelques mamans un petit peu légendaires. Dans la carrière présidentielle de JM.
Il y en a sûrement d'autres dans les années 90, mais on commence en 2005.
Oui,
la grande période. La grande période lyonnaise. C'est le jour où c'est un camp OL. On est en mars 2005.
On est vraiment dans les années où au-delà
sur
des champions, il n'y a pas de débat. C'est comme le PSG certaines années. C'est-à-dire qu'on sait que nous, on va être champions. Voilà, il peut y avoir 5, 10, 15 points. Au fond, ce n'est pas tellement le débat.
Match à Caen, 3 jours plus tard, ça joue en Coupe d'Europe.
Ça joue au match retour contre le Werder Bremen.
Et la pelouse de Caen est horrible. Et là, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il nous fait, Jean-Michel ?
Je vais te laisser le dire parce que moi, j'en ai quelques souvenirs de supporters de l'OL, mais peut-être pas aussi précis que toi, si ce n'est qu'il appelle vraiment littéralement un huissier.
Voilà, il fait venir un huissier pour faire constater l'état de la pelouse parce qu'il dit on ne peut pas jouer dans cette tranchée quand même. Donc, alors, c'est très drôle parce que du coup, tu as déjà le jardinier de Caen qui est là, elle n'est pas terrible, mais ça joue.
Elle n'était pas terrible. Revoyez les images, évidemment. Elle n'était vraiment pas ouf.
Le jardinier qu'on a interrogé du coup pour ce papier, lui-même,
Régis Duchemin.
En fait, il dit que lui déjà, ça a été un des pires moments qu'il a eu à affronter en tant que jardinier. Et il dit non, mais le terrain était en piteux état, un champ de patates. Mais lui, il en veut un peu à Jean-Michel Aulas de cette période-là, de dire c'était l'OL tout puissant, Jean-Michel tout puissant. Et dès qu'il y avait un tout petit truc qui allait pas, ça y est, il montait sur ses grands chevaux, il était un peu insupportable. Lui, c'est ça le souvenir qu'il en garde. Alors, il faut savoir que Bruno Darien, qu'on a eu donc du coup pour l'arbitrage, était l'arbitre de ce match.
Et c'est lui qui décide
de le faire jouer. En fait, il regarde Aulas, il dit, en parlant de l'huissier, il dit vous pouvez faire venir tous les gens que vous voulez, c'est moi qui décide Jean-Michel, et donc on va jouer ce match.
Et donc l'OL le perd sur un but de
Mazur,
de Sébastien Mazur. Et dès que là quand même on l'a retrouvé de JMA au micro de Canal, parce qu'il faut bien se régaler. Il y avait plus de mottes de terre tournée que de bout d'herbe. L'arbitre s'est entêté étonnamment sous la pression amicale des Canets qui voulaient jouer ce match.
Après.
La France du football doit être contente car ça relance le championnat, mais j'aurais préféré perdre dans des circonstances honnêtes. Alors ça relance le championnat, genre l'OM est à 10%. points. Voilà. Enfin, et c'était l'OM de l'époque qui était vraiment nul.
Et c'est sous, on est seul contre tous.
Et voilà, l'OL dérange. Il y a eu beaucoup l'OL s'étonne. Et là, c'était l'OL dérange. Parce qu'il y avait aussi, oui, on joue la Coupe d'Europe, machin, on peut se blesser, machin. 4 jours après, à Gerland, après avoir gagné déjà par 3 buts d'écart à l'aller, l'OL en met 7 au Werder Bremen. Ce qui prouve bien quand même que ce match-là, au fond, il a déjà pas fait de dégâts. Il a eu aucune incidence. Et on le savait déjà à l'époque, il aurait absolument aucune incidence sur le déroulé du championnat, tellement Lyon était supérieur. C'est quand même l'année de Juninho et Sien Diarra. Voilà, il n'y avait pas de débat. Et c'était vraiment une polémique pour rien.
Oui,
voilà.
Jean-Michel est un homme de principe.
Il faut savoir, non, mais il faut savoir être humble. Et c'est peut-être ce qui lui a manqué, des fois, d'être humble dans les périodes où ça tournait très fort. Il aurait mieux fait de se taire certaines fois. Et le coup de la pelouse à Dornano, même si elle était dans un état déplorable, en effet, il aurait mieux fait de s'abstenir.
On saute quelques années et on arrive sur la période Genesio et ça va pas.
Parce que jusque-là, en fait, il agaçait en externe. Et là, c'est là qu'il commence à agacer ses propres supporters, ce qui est très fort.
Oui, parce que lui, il a toujours défendu un peu sa mauvaise foi et on peut le comprendre par le côté les supporters, ils savent que je suis passionné par ce club et tout. Et en gros, je suis crédible parce que j'aime ce club et je défends eux ce qu'ils aiment.
Ça, ça a marché quelques années. C'est
là,
vrai,
ça marche plus en fait.
Il y avait l'OL contre tous et même l'environnement lyonnais était assez d'accord avec cette version des faits. Et puis jusqu'à un moment où il y a eu une distorsion entre l'histoire racontée par Jean-Michel Aulas et les fans de l'OL, ou en tout cas ceux qui suivent le club. Et effectivement, c'est la grande période de... Alors, pas de Twitter, parce qu'il est rentré sur Twitter bien plus tôt que ça. Mais
Pour l'instant, il insultait juste un peu les arbitres, voilà, des fois. Il répondait au papier de l'équipe.
Les supporters adverses, voilà. Mais il n'y avait pas encore de scission avec sa fanbase. Mais là, c'est les années Genesio. Et c'est les années qui a fait du commerce, qui est une expression assez mythique.
Celle-là, elle vient de Genesio lui-même. En conf, ouais. C'est ça.
Quand on l'interrogeait, vous savez, c'est tout le côté, les critiques internes sur on joue pas assez bien, on joue pas. Dès que ça remontait aux oreilles de Genesio, il balayait ça, l'air un peu méprisant en disant ouais, c'est le café du commerce.
Et là, Jean-Michel Aulas, il a commencé à rentrer directement dans ses supporters, quoi, sur Twitter. C'est ça le problème. C'est qu'il répondait à beaucoup de monde. C'était violent, quoi, quand même, pour quelqu'un qui... En fait, il disait que, en gros, c'était soit on était avec Bruno et avec lui, soit on n'aimait pas l'OL, en fait. C'était un peu deux camps irréconciliables.
Il y avait effectivement plus de nuances. Et surtout, il y avait une prise à partie de certains supporters lyonnais, influenceurs, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on dit ça, c'est des supporters lyonnais qui, sur le réseau, notamment sur Twitter, parce que c'était là où allait Jean-Michel Aulas beaucoup, avaient une certaine audience, voilà, beaucoup de followers, et pouvaient, dans la tête d'Aulas, influencer dans le mauvais sens des supporters. Et il y avait même eu le prisme influenceur parisien.
Justement, on a interrogé pour cette partie-là, si vous connaissez sur Twitter, Sarius Charlie, qui est un des principaux, donc qui est supporter lyonnais,
grosse communauté Twitter, ouais.
Et qui habite Paris. Et lui disait, en gros, on n'avait pas le droit d'être supporter lyonnais en habitant Paris. C'était de notre faute si beaucoup de supporters lyonnais critiquaient le club. C'était de la faute de ces influenceurs-là, parisiens, qui n'étaient pas les vrais, finalement,
ouais,
supporters
c'est ce qu'il
lyonnais.
Dit. En gros, soit on n'était pas légitime parce qu'on n'habitait pas à Lyon, soit on était en mission en sous-main au service de la capitale. Lol. Il a créé lui-même cette opposition entre les bons et les mauvais supporters. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs, quoi. Ça n'existe pas, mais lui, dans sa tête, c'est vraiment ce côté on divise pour mieux régner et on catégorise les gens selon qui sont avec vous ou contre vous. C'est là où ça a commencé à sentir mauvais.
Ça marque une rupture, hein, parce qu'il le dit, Sarius Charlie, en gros, il dit à la fin, aujourd'hui, le sentiment prédominant chez les Lyonnais, c'est pas forcément un engouement pour Textor, mais un soulagement quand même qu'Aulas quitte la fonction principale à l'OL. Ça nous rendait tristes de devoir le détester, parce que finalement, ils en étaient rendus à ça, et de le voir saccager le club.
Mais vu de l'extérieur, modernité. Ça restait quand même une bonne marade, parce que quand on le voyait s'en prendre à ses propres supporters avec des tweets à la Kim Jong-un, franchement, quand on n'était pas de l'OL, c'était hyper drôle à voir, même si ça nous a un peu de peine aussi, il faut le dire.
Aujourd'hui, ils se disent pas forcément que c'est une super nouvelle que Textor soit aux commandes, mais ouais. Sur Aulas, il était temps de passer la main.
Les gens qui aiment toujours l'OL se disent c'était dommage de gâcher ton héritage au fur et à mesure. Et effectivement, là, ça fait quand même 4-5 ans qu'on se dit à chaque fois, c'est l'année de trop. Et là, c'est peut-être notre Jean-Michel préféré.
Et on arrive au troisième.
Et là, il a perdu tout le monde.
Troisième séquence.
Il a posé une attaque. Et là, plus personne à suivre, parce que personne n'a compris. C'est la fameuse...
C'est l'arrêt du championnat à cause du Covid.
Avec un certain nombre d'interviews, mais la première est dans le monde absolument légendaire. Vraiment, alors là, je pense qu'on n'a pas posé plus belle interview dans l'histoire des présidents de Ligue 1, où on réclame tout simplement...
La
saison blanche, parce que l'OL est 7e, que le championnat va s'arrêter, et que l'OL n'est pas européen. Et là, qu'est-ce que nous dit Jean-Michel? Eh bien, tout ce qui s'est passé, ça compte pas. On reprend le classement la saison dernière, parce que figurez-vous qu'on est 3e.
C'est un hasard si l'OL est 3e.
On aurait été 15e.
Ouais, j'aurais dit la même chose. Mais...
Et là, je suis pas sûr qu'en 36 ans de présidence, il était plus scandaleux que dans cette période-là où il s'activait seul. Il faut se replonger dans ce contexte-là où.
En gros, le 16 mars 2020, allocution de Macron, il dit c'est la guerre, on ferme tout.
On va tous mourir.
On ferme tout. évidemment arrêt temporaire, on l'espère, à ce moment-là, des championnats et tout. Enfin, de toute façon, c'est même pas la question. À ce moment-là, c'est juste survivre. Et dans les semaines suivantes, en fait, on commence à se dire, bon, et si on devait finir le championnat, qu'est-ce qu'on ferait? Et là, donc, c'est là que la saison blanche, ils voient que ça prend pas trop. Et là, c'est un jour une idée.
C'est vrai, tous les jours une nouvelle idée.
Un jour une idée. Et tiens, et si on faisait un classement au coefficient des 3 ou 5 dernières années?
En fait, c'était toujours un classement qui permettait de faire rentrer l'OL parmi les Européens.
Il a même dit, et si on terminait en fin d'année civile 2020 et on s'arrangera pour la saison prochaine, c'est pas grave. Autre proposition encore, les fameux play-offs à l'été pour les places européennes et les descentes. Il y a les play-offs aussi.
Le pire dans tout ça, c'est qu'il avait, avec le recul, pas forcément tort, parce que c'est vrai que le championnat de France a été le seul à ne pas reprendre, et on va pas refaire toute l'histoire de Mediapro, de la faillite derrière. Enfin, globalement, l'idée de pas honorer cette fin de championnat peut-être pas été la meilleure, mais encore une fois, à l'époque, tout le monde est d'accord pour ne pas la jouer. Rappelons le contexte d'une France à l'arrêt, de cette maladie qui arrive dont on sait pas. Voilà. Il était vraiment seul contre tous.
Et surtout, on a donc fin avril, finalement, Édouard Philippe dit: la Ligue 1 ne reprendra pas. Il le dit comme ça, quoi. Enfin, donc,
Il continue.
Et Jean-Michel, là, il dit, OK, on m'a pas écouté, m'en fous, je pars en guerre contre tout le monde. Il a attaqué la Ligue, la FFF et même le gouvernement.
Et quand on dit attaquer, c'est devant le Conseil d'État. Hein.
Ouais. Voilà. Il a été jusqu'au Conseil d'État. Enfin, il a pris son temps. Il a été jusque-là, qui est la plus haute juridiction de l'État. Et il y a eu 11 audiences dans lesquelles il a essayé de faire passer ses idées. Et ça n'a jamais marché. Alors, on a interrogé quelqu'un qui était à la Ligue à l'époque.
C'est du off, mais c'est quand même savoureux, on va vous le dire. C'est même moi qui vais vous lire ces petites citations délicieuses, une par une. C'est tout le problème de Jean-Michel, dans ces cas-là, il est dans le déni. Quand il est comme ça, si vous dites que cette bouteille est bleue, il va vous dire non, elle est jaune. C'est impossible de le raisonner, c'est comme s'il était dans une sorte d'ivresse de déraison. Il y a quelque chose qui ne monte plus au cerveau. Il savait très bien que c'était perdu d'avance, mais il ne voulait pas s'arrêter. Personnellement, on parle de quelqu'un qui avait un rôle important à la Ligue. Personnellement, j'étais triste de le voir s'enfoncer comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Voilà. Il était comme aveuglé, passionné. Il y a quelque chose qui s'est brisé, même si ça a été un peu réparé après coup, parce qu'on s'est aperçu qu'il avait peut-être pas forcément tort dans sa volonté, en tout cas de finir le championnat. Mais
il a perdu tout le monde dans la manière de le mener, en fait, ce combat.
Il a perdu beaucoup de crédibilité à ce moment-là. Ça arrive aussi à un moment où son club lui-même perd du poids sportivement parce qu'il est moins bon.
Juste pour finir là-dessus, je me souviens, moi, à l'époque, j'avais aussi fait des choses sur Amiens, qui contestait aussi parce qu'il descendait.
Oui.
Et en fait, qui en voulait aussi un peu à Jean-Michel Aulas, parce qu'il disait, c'est pas possible. En fait, il nous pollue le
il
truc. Parce
impossible
que,
toute
on n'entend que lui chaque jour et tout. Et nous, on peut pas défendre notre cas, en fait. Et ça rendait tout compliqué.
Même si Amiens, c'était pas très grave.
Ensuite, il y a eu Le Parisien qui a fait un papier là-dessus, et donc L'Équipe aussi en a fait, sur Jean-Michel Aulas isolé. En gros, à la suite de cet épisode, les autres dirigeants de grands clubs, on se dit, bon, Jean-Michel, il a fait un peu n'importe quoi là-dessus, on va plus trop l'écouter et on va prendre des décisions aussi de notre côté, quoi. Les autres dirigeants lui en ont voulu de tout ce qu'il avait fait à ce moment-là, et
on
ça n'a pas
autre,
aidé pour l'OM.
Un autre trait de caractère dans le temps de Jean-Michel Aulas, c'est son rapport avec la presse, qui est quand même toujours intéressant, je trouve, à évoquer. Alors, ce n'est pas tellement avec nous, parce que on va se dire franchement, Jean-Michel Aulas, l'humour de 20 minutes, c'était pas trop son truc. Non. Mais il avait un rapport, on va dire, presque de vieux notable, de vieux baron de PQR, un petit peu. C'est-à-dire, à la fois prendre à partie et à la fois quand même en avoir besoin. Il n'y a plus beaucoup de présidents qui parlent autant dans les médias aujourd'hui qu'on peut appeler pour avoir son avis sur un sujet. Il était toujours dispo, toujours prêt à jouer le jeu. Mais encore une fois, ça allait dans les deux sens. C'est-à-dire que si le papier ne lui plaisait pas, et surtout au début, il ne comprenait pas quand on disait du mal de lui, il pétait un câble, il prenait son téléphone. C'est la fameuse période des communiqués à tout va. L'OL s'étonne d'être prise à partie.
L'OL s'indigne.
L'OL s'indigne dès qu'il y avait un papier défavorable, notamment dans L'Équipe, parce que c'est vrai que c'est comme le média sportif, évidemment, dominant en France. Donc, il y a eu des épisodes avec Vincent Duluc, parce que c'est un suiveur de l'OL depuis toujours à L'Équipe. Et parfois, ça a atteint des sommets avec... quand c'est pas trop grave, c'était le petit tweet rageur sur papier
oui,
de l'équipe.
En mentionnant les gens vite fait.
Voilà, un scandale, n'importe quoi, tout ça avec des fautes d'orthographe d'enfants de 4 ans. La deuxième étape, c'était le communiqué. Et quand ça va plus loin, il y a les petits appels en coulisses, voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est le droit de réponse.
Ouais.
Et là
pour
savoureux.
Pour le coup, il y a eu quand même une vraie bataille entre l'équipe et Aulas. Enfin, nous, on a eu Régis Dupont, donc, qui est un journaliste de l'équipe, qui avait signé ce papier sur Jean-Michel Aulas isolé. Il racontait son étonnement de ne pas avoir une réaction tout de suite de Jean-Michel Aulas. Il dit, tiens, c'est bizarre, d'habitude, ça va vite.
Pas de tweet rageur.
Pas de tweet et tout. Et en fait, c'était pour mieux que la cavalerie arrive derrière. En gros, c'est Olivier Blanc qui l'appelle. Une première fois, très remonté et tout.
Directeur de la com
et
de
après,
l'OL.
JMA, il claque le communiqué avec son nom à lui sur le site de l'OL.
Voilà, il est capable de citer nommément les gens qui ne lui plaisent pas. Voilà,
sur la forme, c'est un problème.
Ce petit côté pouvoir totalitaire un peu gênant. Mais... encore une fois, voilà, c'était dans cette relation qu'on peut avoir avec des gens importants, mais pour qui le jeu médiatique reste quand même quelque chose à intégrer dans le fonctionnement quotidien. Et Régis Dupont, notre confrère de l'équipe qu'on a appelé pour ce papier, qui dit « C'est l'un des derniers présidents à avoir un vrai rapport avec les journalistes. Et en cela, j'ai apprécié travailler avec lui. Voilà, il a toujours entretenu ce rapport ambivalent. À la moindre égratignure, il y a le coup de fil, le rapport de force, mais aussi une forme de plaisir à travailler avec un club transparent qui fait pas n'importe quoi et où les gens sont joignables pour confirmer, infirmer, discuter d'une information. »
Et ce qui n'est vraiment plus le cas de Ligue 1 aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce de communication tous azimuts qui parfois l'a desservi et qui nous a bien fait rigoler.
Mais c'est ce qui faisait son charme.
Mais rien que pour ça, il va quand même manquer beaucoup à la profession parce qu'il n'hésitait pas à se mouiller en on sur plein de sujets, même si parfois ça lui a porté préjudice.
C'est quand même ce qu'on appelle un bon client dans le métier. Voilà. Enfin, le bon client par excellence.
Tout en étant important, parce qu'il y a des fois du bon client qui vous balance des trucs, mais...
Non, voilà, mais lui, il a des rôles partout, Comex, tout ça, et il se cache jamais. Hein.
Ce qui nous rassure un peu, c'est que même si là, il sera plus à l'OL, normalement, il continuera peut-être à avoir un peu de fonction officielle, notamment sur le foot féminin. On n'est pas encore à l'abri de sorties lunaires de JMA sur la Coupe du Monde féminine. Je sais pas, c'est encore ouvert, mais c'est rassurant de savoir qu'il est un peu encore là, parce qu'il va continuer à être gênant sur d'autres secteurs d'activité. On n'était pas prêt quand même à couper totalement le cordon avec
Jean-Michel. Non, parce qu'il va nous manquer. En vrai.
Il va vraiment nous manquer. Il va manquer à l'OL, je pense. C'est pas le même débat, mais même si les dernières années étaient difficiles, il va manquer à l'OL, il va manquer au foot, à la Ligue 1, parce que c'était un personnage récurrent. On espère qu'il continuera à nous régaler sur Twitter, parce qu'il tweet moins quand même, JM1. Je sais pas si vous allez voir là, ces derniers mois, il y a moins d'indignation, tout simplement. C'est l'âge aussi, peut-être. Il a senti qu'il avait un peu perdu la main sur l'OL.
Si on commence à avoir moins de fautes et plus de ponctuation, c'est pas un bon signe.
C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Il est toujours là, JMA.
Mais oui.
On le verra plus à la tête de l'OL et au Groupama Stadium nous expliquer que, quand même, l'OL est premier entre la 27e et la 30e journée de la 60e à la 70e minute. Ce qui est bien le signe que ça va mieux avec Laurent Blanc.
Exactement.
Allez. On a été un peu plus long aujourd'hui, mais j'ai mal mérité quand même.
Il le valait bien.
36 ans en 20 minutes.
Allez, boum.
Merci
Julien. Merci
Nico.
Merci tout le monde.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de...
De Giroud peut-être la semaine prochaine.
Il y aura bien un nouvel incendie au PSG. On compte sur Kylian pour...
Parce que Messi s'est passé maintenant, on attend Kylian qui va relancer.
Kylian n'hésite pas à faire une interview ou quelque chose. Voilà, pour nous donner un peu de grimbo. Allez, ciao tout le monde.
Salut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.